Je suis très heureux de vous retrouver sur la nouvelle génération. Vous comprenez sans doute que quand il sonne 11h, nous sommes ensemble et c'est le rendez-vous alors de l'actualité, mais aussi alors du débat sur votre radio, la nouvelle génération. Et nous sommes au jeudi 15 février de l'année de grâce 2024 et il est 11h sur votre radio. C'est l'émission Club de la Presse qui démarre comme ça. Les annonces de l'émission de ce jour est assurée par Michel Kokou Vitokbe Tomega. Comme toujours, Jérôme Akoucha assure la mise en ligne. Je suis au micro Pascal Lussou. Nos salutations fraternelles à nos radios partenaires qui nous relaient à l'intérieur du pays, notamment Radio Lumière à Neho, Radio La Paix à Takpamé, Centrale FM à Sokodé, Radio Daoul à Bassa, Sama FM à Niamtougou et puis Radio Courtoisie à Dapaan. Vous pouvez également nous suivre partout dans le monde grâce à nos différentes plateformes digitales et aussi nos radios partenaires en ligne, notamment Ibn Radio et Radio Les Bénins. Club de la Presse, vous le savez très bien, c'est le décryptage, le débat et l'analyse de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Et c'est avec nos confrères journalistes en studio chaque jour avec son équipe. Et vous savez que nous sommes au jeudi. L'équipe alors de jeudi est en place. Michel Yao Tchadja, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour aux confrères, bonjour Canal FM.
J'espère que tu vas bien.
Par la grâce de Dieu, ça va.
D'accord. Jean Legrand, Paul Erini, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour aux confrères en studio, aux techniciens derrière la baie vitrée. Et bonjour à toutes les auditrices et auditeurs de Canal FM. Je vais tout de go, ce n'est pas dans les normes, mais donner un carton rouge à la T2E. Franchement, pour une situation désagréable.
Alors, quand vous commencez déjà à donner un carton et c'est, oui, la couleur, c'est rouge.
Vous comprenez pourquoi je dis que c'est rouge, parce que depuis mardi soir, dans la zone d'Agoué, au niveau de Agoué-Angomé, Avedji, Carrefour de Lyon, et même à l'université de Lomé, il n'y avait pas d'eau. Du moins, si la rupture fait 2-3 heures, on comprend. Mais quand la rupture va jusqu'à 24 heures, après 5 heures d'absence d'eau, aucun communiqué, rien. Les gens sont là à souffrir, se demander qu'est-ce qui ne va pas. On se demande si est-ce qu'il y a des gens à la tête de ces structures. Mais pourquoi on ne peut pas communiquer, expliquer aux gens qu'il y a un problème, patienter, ça va être résolu. Rien, je vous dis, jusqu'à 24 heures. Les gens se lavaient hier, l'eau est finie chez eux. Et maintenant, il fallait voir comment les gens transportaient les bassines dans la zone d'Agoué. Des gens doivent aller au boulot, il n'y a pas d'eau pour se laver. Ma foi, c'est une situation vraiment regrettable. Et vraiment, il faut que la T2 revoie sa copie. C'est vrai que c'est un service public. On ne dit pas qu'il ne faut pas qu'il y ait des problèmes. Mais quand il y a un problème, après quelques temps, au moins informer la population. Parce que c'est un service public. Nous payons pour l'avoir. Ce n'est pas une eau gratuite. Pour qu'on se dise qu'on est là, c'est des animaux qui sont devant. Ce n'est pas normal.
Merci beaucoup, Jean Le Grand Paul Erini, pour votre coup de gueule. Et je sais que déjà les autorités sont à l'écoute et ceux qui sont à la charge même d'ailleurs de ces structures sont à l'écoute et sûrement ils vont y remédier. Alors, Ambroise Kondjo, bonjour.
Bonjour, j'ai ma voix qui est un peu cassée ce jour, que les auditeurs et auditrices m'en excusent. Ça ne vient pas tous les jours. Je salue les confrères ici présents. Il y a un ami qui m'a appelé hier par rapport justement au sujet d'enfin cas tout à l'heure, Jean-Paul Lény, sur la TDE. Bon, moi je n'ai pas de lien avec la TDE, mais il n'en demeure pas moins que je puisse appuyer son inquiétude et son coup de gueule vis-à-vis de cette institution, de cette société qui, par moment, créer des désagréments à ses abonnés. Et je crois que nous sommes dans un service public ou parapublic où le droit du consommateur doit être privilégié. Je tiens quand même à leur rappeler que même si on coupe, surtout aux consommateurs, même si on coupe l'eau qui a créé tellement de désagréments aux gens ces derniers temps, quand vous ouvrez la pompe, ça fait chut, ça consomme, ça s'enregistre. Et ça se facture. Ça, ils ne le communiquent pas au consommateur. Pourtant, le consommateur paye ça. C'est du vol. C'est de l'escroquerie. Vous voyez, c'est de l'arnaque. Et je crois que, ajouté à ce que mon confrère a dit, il faut que la T2 revise sa manière de gérer le service public. Il s'agit du service public.
D'accord. Alors, merci beaucoup, Ambroise. Nous sommes rejoints par Magloa Teko Kenvi. Magloa, bonjour.
Bonjour à toi, Pascal. Bonjour aux confrères et bonjour Canal FM.
J'espère que tu vas bien.
Ça va pas, la grâce de Dieu, surtout que le temps, il est beau relativement ce matin.
Tout à fait. Le sourire même montre que tout va bien. Alors, chers confrères, nous, c'est vrai que Jean le Grand parlait tout de suite alors de la TDE avec la coupure d'eau, mais l'autre coupure qui fait du mal alors à la population aujourd'hui, c'est l'électricité, le délestage. Jean le Grand, vous êtes intéressé au sujet à la une alors de votre journal. Ce matin, vous êtes revenu largement sur le sujet où vous posez la question de savoir s'il y a un ministère de l'énergie au Togo. Alors, ce qui est encore paradoxal, c'est que dans cet article, je vois, vous mettez l'image alors de Madame Maounion Milaziablé, ministre délégué auprès du président de la République chargé de l'énergie et des mines. Ce qui veut dire qu'il y a au moins une ministre également qui est chargée de l'énergie.
Oui, la question vaut tout son pesant d'or. Vous savez, quand vous êtes là, mais on demande si vous êtes là, c'est qu'à un moment donné, on ne voit pas en réalité ce que vous êtes en train de faire. Ou bien c'est comme si on dirait que votre présence est synonyme à votre absence, si je peux m'exprimer ainsi. Ça fait plusieurs semaines que la population lomène vit le calvaire, surtout au niveau de la fourniture du courant électrique. Pendant la canne, vous pouvez voir comment les gens se sont plaints. Mais est-ce qu'une seule fois, un communiqué est sorti pour nous dire qu'on aura coupé de courant, il y aura tel, tel, tel? Rien. Avant, au moins, on avait un certain chronogramme. On disait, bon, dans tel quartier, il y aura coupé tel jour, de telle heure à telle heure. Mais cette année, on ne comprend plus rien. C'est la première fois que nous vivons une pareille situation en janvier. Dieu seul sait comment la plupart de nous aujourd'hui qui avons sorti nos genoux, la bataille que nous avons menée hier. Vous ne pouvez pas imaginer comment on coupait le courant à longueur de journée. On dirait qu'on a remis la commande à un enfant, il est là, il dit, bon, je coupe, j'allume, je coupe, j'allume. Mais c'est incompréhensible.
C'est vrai.
Mais c'est, moi je dis, est-ce qu'on sait au moins, du moins ce que nous subissons? Nous payons, ce n'est pas un travail gratuit, nous payons pour un service.
Mais c'est un service public.
Un service public. Maintenant qu'il y a une difficulté, quel est le véritable problème? Depuis le mois de janvier, on en a plusieurs fois parlé, mais jusqu'ici, aucun communiqué. Le ministère de l'énergie même ne dit rien, parce que la société dépend de ce ministère. Si un démembrement ne marche pas, au moins que la tête parle. Mais le ministère ne dit rien, on continue à volo. Bon, on se dit, bon, ils vont gérer, on va supporter. Vous imaginez comment plusieurs personnes ont perdu leur appareil. Les gens ont mis les trucs dans le congélateur. Qui s'est gâté? Le soir, dès que vous arrivez, vous allumez vos matériels, ça ne s'allume pas. Les ampoules ne font que, il y a un bal d'ampoule chaque soir. Mais comment on peut vivre dans un pays comme ça? Mais c'est insupportable. Du moins, ce que l'autorité nous situe sur la question. Quel est véritablement le problème? S'il y a un problème, on communique avec nous. Mais on ne peut pas rester. Et on ne nous informe pas d'une certaine coupure. Vous êtes là. Quand vous avez la lumière par jour maintenant, c'est que c'est un miracle. C'est-à-dire, avant au moins 10 heures de courant électrique par jour, ça devient un miracle au Togo. Dans d'autres pays, vous allez au Cameroun, il y a cette situation. Mais du moins, le gouvernement a interpellé le ministère de l'énergie qui est en train de faire son travail. Vous allez en Afrique du Sud, c'est un pays où il y a des coupures récurrentes en énergie électrique. Mais il y a un chronogramme clair. On sait qu'à tel niveau, il n'y aura pas de courant pendant tel nombre de temps. Et tout le monde est situé et on fait ses prévisions. Mais quand on ne dit rien aux gens, c'est comme si c'était un mouton et on avance seulement.
Michel, c'est vrai qu'en tant que consommateur, client de ces structures qui fournissent des services publics, on a besoin des explications.
Oui, en temps normal, c'est ce qu'il faut. Ça dit que c'est un service public. Lorsque il y a des difficultés, il faut alerter la population sur ces difficultés-là. Et c'est ce qu'on ne constate pas, surtout au niveau de la CET. Hier, je pense, Jean le disait, hier, au bouclage, ça n'a pas été facile.
Comment ça s'est passé?
Oui, on tire un calque, on coupe, on attend.
Vous êtes déjà arrivé au tirage des
calques. Au tirage même des calques.
Même pour le montage, même c'était aussi, je ne veux pas être long, c'est pourquoi j'ai essayé de raccourcir le calvaire que nous avons suivi hier à la rédaction. On tire un calque, on coupe, on attend, on tire le second, deux minutes après on coupe, bon, on était obligé à un moment donné, le technicien photocopieur était vraiment, il faisait pratiquement de la magie. Bon, on se posait la question, mais entre-temps, j'ai lu sur un site, je ne sais pas, que la fourniture du courant, la CET annonce des perturbations courantes cette semaine. J'étais un peu révolté quand j'ai vu ça.
De quoi?
Oui, puisque c'est une manière, c'est un mépris envers les populations, c'est une manière de nous insulter, qu'on n'ait rien. Parce que si cette semaine, il y a des coupures, c'est la semaine passée qu'on doit annoncer. Ce n'est pas quand. C'est comme vous êtes en train de voler, vous êtes dans un avion, et c'est quand vous êtes en plein vol de turbulence qu'on prend la peine de vous dire que ah, c'est maintenant on traverse. Mais ça doit être annoncé d'avance qu'il y aura cette situation. Les problèmes, c'est des gens qui travaillent. Il peut y avoir des difficultés, comme Jean le disait. Les difficultés, ça arrive. Des pannes, ça arrive. Il y a parfois même des maintenances. Des travaux pour la maintenance. Ça arrive. Mais qu'on prenne soin de nous informer, c'est tout ce que nous demandons. Mais aujourd'hui, pour venir ici, mais il fallait voir la pagaille sur la route. La pagaille organisée par la coupure, qui est encore observée dans certains quartiers en venant ici. Et maintenant, les photocollants.
Même dans le quartier, comment l'appelle-t-on, Rancopi, ici, nous voilà, en avons été victimes.
Voilà. Les photocollants qui ne marchent pas. Moi, j'ai été très enchanté de voir que, au moins, bon, pour le moment, vous tenez un canal FM ici. Sinon, certains services, les gens sont là. Mais comme on le dit, nous sommes en train de le relever, on ne dit rien à personne. C'est-à-dire que le problème, quand vous êtes en plein problème, on vous dit que non, qu'il y aura problème. Vous comprenez à peu près ce que c'est? Vous savez, à un moment donné, dans ce service, je parle de la société, il y avait certains qui trouvaient que la presse pouvait contribuer à faire quelque chose. Il y avait des communiqués qui passaient dans les médias. Certains sont venus dire, d'autres sont venus après dire que non, 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 de les laisser là-bas. Et bon, ça dit, c'est, maintenant la communication, ça tout va. Parfois, c'est certains sites qu'on voit. Et bon, cette façon de faire, je l'ai dit il y a de cela deux semaines ici, que côté énergie, si vous voyez comment ça se passe, le chef de l'État, il court, des fois il est à Abu Dhabi, il est en Arabie Saoudite, l'énergie
rouge. Kazakhstan.
Non, oui, il y a aussi de l'énergie parce qu'il y a le gaz là-bas. On peut avoir besoin. Ça, c'est normal. C'est le rôle d'un chef d'État. Vous avez besoin de. Comment l'appelle-t-on
Vous voulez parler du partenariat
ou non. Vous avez besoin de communiquer. Vous avez besoin de dire que à tel niveau, ça se passait comme ça ou ça se passe comme ça pour que les populations sachent à quoi s'attendre. Parce que il y a de cela une ou deux semaines, nous débattons aussi de l'énergie ici. Et je disais que le problème, c'est le problème de management. Il y a certaines personnalités qui sont là pendant près de 40 ans et qui sont là dans le domaine des infrastructures énergétiques. Et ça ne change pas, mais les mêmes personnes sont là. S'ils ne sont pas DG, c'est ministre ou bien conseiller à la présidence. Et on ne comprend pas. Et au moins, changez-les, on va voir qu'est-ce que les autres sont en mesure de faire. Et ça continue comme ça. Et ce qui est encore insultant pour les populations, c'est que ça se passe comme ça et on ne dit rien. C'est comme rester comme ça. Alors que, quand vous voyez au sommet de l'État, je le disais, les moyens sont mis. Vous voyez les centrales qu'on construit un peu partout, l'énergie renouvelable par ici, par là. Mais que, surtout dans la capitale, les gens continuent à vivre des situations comme ça. C'est pourquoi je dis que il y a un problème. Si on ne prend pas, vraiment, on ne cherche pas à remédier, à régler de si vite ce problème, j'avoue que quand nous parlons économie, c'est l'énergie qu'on met en avant. Et si l'énergie en pâtit, ça veut dire que vraiment la capitale va connaître des situations où l'économie va avoir des problèmes, quoi.
Voilà. Alors, Magloire, c'est vrai, quand on parle de l'énergie, c'est en quelque sorte un des besoins vitaux même pour la population. Et aujourd'hui, quand on voit quand même qu'on est dans le délestage, on est là avec des coupures intempestives, automatiquement, ça fait tellement alors du tort aux populations.
Bien évidemment. Vous savez... Aujourd'hui, quand vous prenez même la politique de façon institutionnelle au Togo, on migre beaucoup plus même vers la numérisation. Hein? Aujourd'hui, on dit que ben, vous êtes togolais, vous êtes Akara, Dapan, Abadou, mais vous pouvez vous faire établir votre passeport en ligne, vous allez vous inscrire en ligne et tout ça. Et même le comment vous appelez ça,
le casier judiciaire,
oui. Tout ça c'est bien, mais à la base de tout ça c'est l'énergie. Lorsqu'on n'a pas l'énergie, on pourra rien faire. Et quand on veut une administration aussi moderne, efficace, il faut veiller d'abord qui est la base et tout pas de l'énergie. Et c'est en cela justement que nous ne comprenons pas le silence de toute la chaîne décisionnelle, du ministère de l'énergie jusqu'à la CET, même en chutant sur les organisations de consommateurs ou les syndicats de consommateurs, si on peut les désigner ainsi.
Les associations de consommateurs.
Voilà, vous allez voir que tout le monde se met dans un silence sépulcral. Ben, on se demande, mais est-ce qu'on a du respect aux consommateurs togolais? Voyez-vous, la semaine dernière, on en était ici à débattre, n'est-ce pas, des soucis qu'on a dans le secteur de la téléphonie mobile. Malgré les cris d'alarme de l'ARCEP, ça ne change pas. Par exemple, ce matin, moi, j'ai chargé mon téléphone d'une unité de 1000 francs, par exemple. À peine j'ai appelé, mon répondant a dit « Allô ?» J'ai répondu à l'eau, on me dit que votre crédit est insuffisant. Et jusqu'alors, on ne l'a pas débloqué, je ne sais pas pourquoi. Mais ça voudra dire que techniquement, il peut y avoir des problèmes. Ça, on n'en disconvient pas. C'est-à-dire que c'est des hommes qui travaillent, c'est des machines. Il peut y avoir des problèmes, mais dès qu'il y a un problème, il faut expliquer. Il faut expliquer aux gens. C'est mieux que de se taire. Là, ça rime au mépris. Et c'est à cela qu'on peut résumer tout ce qui se passe aujourd'hui. Hier, Et Michel et Jean le disaient tantôt, mais ce que nous avons enduré hier, par exemple, nous, à la réalisation du journal Flambeau des démocrates, on a perdu comme ça un de nos ordinateurs. Un ordinateur est parti comme ça en fumée hier, lorsqu'on a coupé le courant. Le temps de remettre, ben, c'est que de la fumée qui sortait, voyez-vous. Mais là, on pouvait porter plainte, en réalité, c'est de notre droit. T'as le droit de porter plainte même contre X. Mais généralement, le problème aussi, c'est que nous, consommateurs, on ne connaît pas trop nos droits. On est là, on se plaint, mais demain, après demain, les choses ne changent pas. Et puis on dit, Dieu le fera. Mais jusqu'à quand? Mais c'est l'autre aspect, c'est que ben, quand vous prenez le Togo, il y a assez de communicants, il y a assez de communicateurs au service des institutions de la République, des ministères, des services publics. Mais à la fin, on se demande, est-ce que c'est les communicants qui n'ont pas les moyens de faire valoir ce dont ils sont capables, ou alors eux-mêmes ne sont pas si créatifs? Ça, c'est tout un ensemble de questions qu'on se pose, mais à la fin, véritablement, il faut se rendre compte qu'il y a un vrai problème. Et il va falloir, hier, Michel l'a dit, la société communiquait. Mais qu'est-ce qui a pu se passer pour qu'on se mette dans un silence sépulcral? Personne ne comprend rien. C'est en cela que ça inquiète. Mais quand on le dit, c'est pas qu'on est contre quelqu'un, mais c'est pour que les choses changent.
Et justement, c'est pour que les choses changent.
Pascal, voilà. Si tu permets, nous avons même...
Oui, embrasse, s'il te plaît. Jean Le Grand, s'il te plaît. Embrasse, oui, quand on comprend. C'est vrai que, comment Magloire a évoqué un certain nombre de choses tout de suite concernant surtout le silence de toute la chaîne décisionnelle. Et même, il est allé loin, parlant même d'ailleurs des associations de consommateurs. Est-ce que vous comprenez vraiment ce silence?
Oui, moi je voudrais prendre ces problèmes-là à trois volets, tout en comprenant les inquiétudes de Magloire par rapport aux associations de consommateurs. Il y a un problème de fourniture de courant au Togo. Il y a des fournisseurs internes, des fournisseurs externes, je l'avais dit ici. Un problème de management ou de gestion. Et ensuite, un problème de consommation et donc des consommateurs qui subissent des désagréments tout le temps. Et le manque de compensation à ce qu'ils subissent, tel que Madame Magloire l'a dit tout à l'heure. Problème de fourniture. Il y a ces pays-là, la Vera, le Ghana, Kosovo et la Côte d'Ivoire et le Nigeria, selon ce que nous avons eu comme information. Moi, j'avais cru que à la fin du tournoi,
la CAN,
avec les six terrains là qui étaient vraiment énergivores, on pouvait nous retourner quelques mégawattheures. Parce que on nous a dit, moi j'ai appris que le Togo achète quelques mégawatts. Et quand c'est chaud là-bas, on retire. Donc, ça m'a donné l'idée que peut-être quand on retire, ça peut impacter la fourniture en interne. Mais là, il y a contrôle global. C'est parce que contrôle global, peut-être, c'est ce contrôle-là qui peut-être a sauvé la situation. Entre-temps, moi, je ne sais pas. Et ça renvoie maintenant à la question, je ne veux même pas parler des panneaux solaires, parce que c'est seulement à Blita qu'on a ça. Au lieu de vulgariser, au lieu de généraliser ça dans tout le pays, notamment à Lomé. On a plein de soleil, on a les énergies, on a le vent, mais on ne l'exploite pas. Mais ça nous renvoie maintenant à la question du management, ou la question de gestion. Question de gestion, au prime abord, on parle de la communication. Et quand un secteur marche, il n'y a pas de souci. Il y a des secteurs qui marchent, pourtant on communique. Maintenant, le pire, c'est que ça ne marche pas. Et là, on est gouverné par le silence. Moi, c'est ça qui m'intrigue. Est-ce que c'est un problème au niveau de la gestion, de la direction de la CET, de la direction générale de la CET, qui est une structure autonome, c'est-à-dire une structure parapublique à gestion autonome? Ou c'est une question du ministère qui est gérée par une dame dont je n'ai jamais vu, c'est-à-dire que je ne sais pas si elle est venue pour travailler ou pour faire le sport, je ne sais pas.
Non, mais elle est là pour travailler, non?
C'est pourquoi je dis ça. Au moins, s'il y a certains ministères, des ministres dont on dit qu'ils ne travaillent pas, on les voit au moins à la télé. Faire le jeu de la communication pour qu'on sache que vous existez. Mais elle, autre, je ne sais pas. D'abord, elle a bon, quand je vais parler de l'âge, on va me dire que je suis en train de discriminer. Mais je me dis qu'il y a un problème à son niveau. Est-ce qu'il semble qu'elle ne travaille pas? Elle ne sait pas, peut-être son travail, elle ne connaît pas son travail. Et le problème, même, se focalise plus au niveau du DG de la CET. Je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu. Mais je me dis, au temps de Jeteli, on a beau reprocher des choses à Jeteli. Jeteli, lui, il communiquait. Au temps de Damipi, nous beaucoup, il communiquait. Mais même Kakati faisait certaines communications. Mais pourquoi lui ne communique pas? Peut-être la faute ne vient pas de lui. Parce que la CET est une lourde machine. Il y a un conseil d'administration où il y a ces anciens là, des anciens ministres, machin, tout ça là qui sont là-bas, et qui aussi dictent leur loi. Le DG peut vouloir faire quelque chose, mais ils sont toujours dans la trousse, ils sont des bâtons dans la roue. Ça, on entend des choses. Mais comme on n'a pas la quintessence, l'essentialité des preuves, on ne peut pas tout dire ici. Mais dans la troisième, c'est la consommation. C'est nous les clients qui en subissons les gaffes. Non seulement les gaffes, on en subit les désagréments. Comment se sortir de ces désagréments dont t'a fait cas Magloire tout à l'heure? Il a dit, les appareils ont sauté,
oui.
Les ordinateurs sont partis. Hier, on était sur une plateforme de journalistes, je les écrivais, qu'il faut avoir des régulateurs au niveau des appareils sensibles. Télévision, ordinateur, frigo, tout ça. Parce que quand on met le poisson et les coupions d'Inde ou quoi encore, l'autre là, dans les frigos, on coupe pendant 8 heures, ces produits-là seront avariés. Absolument. Parce que les bactéries vont rentrer dedans, mais là, les gens vont consommer. Surtout ceux-là qui sont au bord de la route qui vendent ça. Le consommateur n'en sait rien. Lui veut manger du poulet. Alors que 2 heures déjà de coupure qui n'est pas dans un frigo surgelé, il veut avoir des batteries. Il faut qu'on arrive à sensibiliser sur ça. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il a soulevé le mot. Est-ce qu'il faut porter, plainte? Parce que la CET envoie beaucoup de milliards chez les assureurs classiques. Et donc, qu'est-ce que nous on doit faire? Appeler un huissier qui constate les dégâts. Il fait, comment on dit ça, un procès verbal. On envoie au service contentieux de la CET. Et paf! Ça va durer, mais vous serez compensé. Pour vous dire, en réalité, que le Togo ne devait pas souffrir de problèmes d'énergie. On n'est pas nombreux. On est à peine 8 millions. On a le barrage d'Akosubo qui nous fournit du courant. C'est un barrage qui est géré par 5 pays, je crois. On a Nangweto
que la CEBG, on doit avoir Jalala.
Bref. Oui, Jean Legrand.
Oui, tu vois, nous quatre, nous avons charlaté pour chercher à comprendre qu'est-ce qui ne va pas. Pourtant, nous avons des députés dans ce pays qui sont censés contrôler l'action gouvernementale. Mais je n'ai vu aucun interpeller le ministère ou un certain service par rapport à cette situation.
Pas le problème.
Vous voyez comment c'est regrettable. Mais dans 2 mois, on ira encore. Ils seront sur le terrain. Votez pour nous, votez pour nous.
Adai.
Mais ils sont là-bas. Aucun n'a levé le petit doigt depuis janvier pour dire « Ah, nos populations qui nous ont mandatés souffrent de courant énergétique. » Quel est le problème? Expliquez-nous. Rien. Allons-y seulement.
D'accord. Alors, nous allons quitter le sujet. Hein. On parle alors d'un autre sujet qui est abordé aujourd'hui par beaucoup de journaux, bien évidemment. Et c'est la question de l'harcèlement sexuel hein, en milieu du travail. Il y a beaucoup de journaux qui sont revenus sur le sujet parce que il y a le ministre de la fonction publique qui a fait sortir un arrêté hein, pour réglementer, enfin pour en quelque sorte interdit ou proscrit même d'ailleurs ces actes en milieu du travail. Il y a le journal La Lanterne qui titre à sa une « Acte au harcèlement sexuel, moral sur les lieux de travail. Gilbert Bahara frappe du poing sur la table. » Alors, Ouara les vainqueurs. Michel, vous écrivez à la une de votre journal « Discrimination, harcèlement, violence et intimidation en milieu professionnel. Le ministre Gilbert Bahara réagit. » Et le dialogue aussi revenu sur le sujet « Togo, harcèlement au travail. » Le ministre Gilbert Bahara prend des mesures fermes. Alors, Michel, quand on prend l'arrêté alors du ministre de la fonction publique, le ministre Gilbert Bahara, alors concrètement, qu'est-ce que le ministre, quelles sont les mesures hein, définies par le ministre dans cet arrêté?
Je pense que nous parlions souvent du harcèlement sexuel en milieu du travail. Le ministre Gilbert Bahara est allé au-delà. Les intimidations, que ce soit lors du recrutement, que ce soit au cours de l'apprentissage, que ce soit au niveau du contrôle du personnel qui travaille, on a constaté que il y a beaucoup de choses qui s'y passent. Et il n'est pas trop tard pour bien faire. Nous pensons que le ministère allait réagir, en tout cas depuis longtemps. Mais si on le fait aujourd'hui, en tout cas, c'est bien. Parce que le plus souvent, comme je l'ai dit, nous parlons de harcèlement sexuel, les promotions canapés et tout, mais les intimidations que certains, qu'ils soient hommes ou femmes, orchestrent envers leurs subordonnés, surtout dans la fonction publique, c'est inquiétant. Et nous trouvons que cet arrêté pris par le ministre Gilbert Bahara est venu à point nommé parce que désormais, il y aura des sanctions. En tout cas, quand c'est avéré, quand c'est prouvé que vous avez en tout cas commis en tout cas toutes ces
ces actes.
Oui, vous avez poser tous ces actes-là, si c'est avéré, c'est qu'il y a des sanctions qui sont prévues. Vous allez dans certaines administrations, pour le simple que quelqu'un est responsable, mais la manière dont il se comporte envers ses subordonnés, c'est comme pratiquement un anibafio, comme on le dit vers le sud ici. Ça dit, c'est un seigneur.
Un roi de la terre.
On ne sait pas, c'est le diplôme qu'il a pour être à la tête des autres, ou bien c'est sa position sociale qui lui permet cela. Mais, il y a, moi, j'ai eu des témoignages
où des gens ont pleuré, des femmes ont pleuré devant leur chef. Parce qu'il les parlait mal, il les parlait comme c'était des enfants. Alors que c'est des mères de famille, c'est des pères de famille. Et rien ne vous autorise à vous comporter comme ça devant. Désormais, que les gens s'organisent et portent plainte contre ces responsables vraiment qui... Il y a des raisons, quand il vient au service, aucune mouche ne doit voler. Aucune mouche ne doit voler. Mais c'est quoi ça? On demande aux gens d'être dans de bonnes conditions pour travailler. C'est vrai, vous êtes chef, vous devez discipliner vos subordonnés parce que vous avez besoin d'un résultat. Mais quand vous avez des méthodes hitlériennes parce que vous cherchez tel ou autre, mais vous, je suis désolé, vous n'allez pas l'avoir. Parce que les gens ne vont pas donner ce donner, les gens ne vont pas donner le meilleur d'eux-mêmes parce que vous les indisposez en tant que chef. Et comme je l'ai dit tantôt, il y a des témoignages où des gens se comportent d'une manière ou d'une autre et des gens sont obligés, des femmes sont obligées de pleurer, des hommes sont obligés de pleurer. Voilà. Mais on ne sait pas pourquoi ça se passe.
D'accord.
Et c'est pourquoi je dis que nous avons voulu traiter cela parce que j'ai trouvé que c'est un arrêté qui est très important. Si les fonctionnaires s'organisent désormais, il y aura un déclic.
D'accord. Concrètement, l'arrêté ministériel précise que toute personne qui est victime alors de l'harcèlement ou de ces intimidations peut quitter son lieu de travail sans préavis et sans pouvoir payer d'indemnité de rupture du contrat. Et par la même occasion, toute dénonciation ou plainte abusive peut donner lieu au versement dont le montant de dommages et intérêts n'excède 3 mois lors de salaire brut. Alors, Magloire, quand on suit même d'ailleurs l'arrêté et son contenu et tout, oui, prendre un arrêté, prendre une décision, alors sur ce plan, je pense que c'est déjà bien, mais il faut également suivre cet arrêté pour que du moins ça soit interdit, même concrètement, alors sur les lieux de travail.
Non, mais bien entendu, Pascal, vous avez bien fait même de me tendre la perche parce que. Vous savez, l'harcèlement, tout ça, c'est un délit. Et il faut avoir la main ferme contre tous les obsédés, tous ces vicieux-là, perchés, n'est-ce pas, dans les administrations publiques, qui essaient d'intimider le personnel, surtout féminin. Mais alors, il n'y a pas que ça, il y a aussi l'effet inverse. Il y a aussi l'effet inverse. Tout dépend de la position qu'on occupe dans l'administration. Et nous avons, comme Michel l'a dit tantôt, moi je me rappelle qu'il y a au moins 3 ans, le journal Flambeau a fait un dossier sur cette affaire dans un centre d'administration publique bien connu ici, où il y a eu des cas terribles.
Dans notre administration.
Bien sûr, je parle de l'administration publique. Et vous savez, la classe, qui est plus exposé, c'est les stagiaires. C'est les stagiaires. Lorsqu'elles arrivent dans les administrations, je ne vous dis pas ce qu'elles endurent de la part de leurs supérieurs. Souvent, elles ont peut-être 3 ou 4 supérieurs. Et si elles ne savent pas avoir la grinta nécessaire pour pouvoir supporter tout ça, mais je vous assure, à la fin, ils vont tous marcher sur elle avant qu'elle ne se rende compte véritablement qu'elle est dans une aventure ambiguë. Voyez-vous? Et donc, on ne va pas donner des noms ici, mais je vous assure, on a des témoignages terribles. On vous envoie à l'heure de midi, c'est aussi ça, certaines réalités dans certaines administrations. À l'heure de la pause, c'est les stagiaires qu'on envoie acheter. On va dire du déjeuner au supérieur et vous rentrez, Dieu seul sait ce que vous subissez dans les bureaux. Il y a des gens qui ont placé des canapés dans leur bureau sous prétexte, oui, qu'ils veulent se reposer, c'est vrai, mais Dieu seul sait ce qu'ils en font de ces canapés.
Repos à deux
et à trois, pourquoi pas. Il y a des choses qui se passent et c'est pour ça, nous disons béni soit Dieu qui a inspiré le ministre Bawara à vouloir mener une guerre fratricide comme ce phénomène, comme ce fléau. C'est pour le respect de la dignité de la femme. et aussi de la dignité d'une catégorie d'hommes. Parce que je le dis, ce n'est pas seulement les femmes qui sont victimes, mais il y a aussi une portion, même si c'est un peu congru, d'hommes aussi qui sont victimes de la part de leur supérieur féminin. Mais en même temps, vous m'avez posé la question de savoir, est-ce que prendre une décision salutaire suffit largement pour lutter contre le phénomène? Voilà. Je dis non.
Non.
Parce que c'est un phénomène tentaculaire qui a la peau dure. Et donc, il faut absolument mener une autre politique de suivi ou même de lutte contre ce phénomène pour pouvoir espérer le gagner. Mais en même temps, je vais avertir le ministre Bawara que le combat sera hargne et dur, même long. Mais il faut avoir le courage de le mener. Parce que ce qu'il y a, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui traînent des séquelles. Ils traînent des séquelles. Il y a même des femmes au foyer qui malheureusement tombent dans ce jeu. Et c'est leur dignité qu'elles perdent comme ça.
Voilà.
C'est pour cela qu'il dit, le combat il est noble, mais il faut avoir le courage nécessaire pour aller jusqu'au bout.
Et il faut avoir le courage nécessaire pour aller jusqu'au bout. Et, Ambrose, on a eu la police des eaux, mais est-ce que finalement, on doit avoir aussi la police du travail pour finalement arriver à juguler ce phénomène ou tous ces actes-là hein, qui sont répréhensibles?
Oui, je crois que c'est de bonnes guerres. Hein. Il faut avoir, s'il faut avoir une police derrière les patrons, et c'est pas seulement dans les services publics, hein. Il y a plein dans le privé. Vous avez une secrétaire qui est recrutée. Elle est à la fois la secrétaire, la comptable, la cuisinière. Elle est tout pour le DG. Vous comprenez? Mais avant d'en arriver là, le risque, c'est que le mal même, c'est que y a plein de choses qui se passent. Et je me rappelle au temps du CASEF. Les gens du CASEF, excusez-moi. Hein. Peut-être vos anciens là sont déjà
là. Le CASEF est toujours là. Hein.
Oui. Je parle, puisque c'était le centre même du service public à ce moment-là. Dans les années 90 jusqu'à 2000. C'est la période là. Beaucoup sont allés à la retraite. D'autres sont décédés déjà. Mais Dieu est au courant. Dieu lui seul est au courant. Maintenant, ça a commencé avec aussi les communes, les mairies là, qu'on a créées là. À peine créées, allez vérifier tout ça. C'est-à-dire que le maire qui est venu là, voilà. Les conseillers là. C'est-à-dire que toi, simple conseiller, quelqu'un qui est une madame, toi tu veux goûter. Pourquoi tu veux goûter? Tu n'es même pas le maire. Ça c'est un.
Est-ce que le maire
n'a pas le droit?
J'en viens. J'ai dit, tu n'es même pas le maire pour dire que au moins tu as à près d'un million.
C'est ça.
Parce qu'à cause d'argent, on peut influencer. Ici, c'est même pas argent. Simple position de conseiller. Le maire, lui, son problème, peut-être, c'est qu'il va se dire qu'il est en bonne position. C'est lui qui dirige, c'est lui qui donne les ordres, c'est lui qui est l'ordonnateur du budget de la mairie. Donc il peut se permettre tout. Non, tu fais 6 ans, tu fous le camp. L'année prochaine, ils vont partir. Mais ceux qui m'énervent le plus, ce sont ces gens-là qui pensent pouvoir gagner l'argent et ils se retrouvent maintenant à courir derrière le maire, leur agent. Je parle des conseillers toujours. Ils sont tous des conseillers. Ça, je laisse ça quelque part là-bas. Maintenant, les maires, lorsqu'ils sont arrivés, ils doivent recruter aussi, non? C'est là, je rejoins et ma gloire. C'est en cette période de recrutement-là où vous allez trouver de belles filles. De très belles filles qui apparaissent un beau matin, mais comme beaucoup s'y a bien fait,
les belles filles, ça fait la vitrine même d'ailleurs de l'entreprise.
Mais justement, et aussi quand elle fait la vitrine, c'est elle, là aussi elles sont victimes. Parce qu'au final, beaucoup ont été laissés pour compte. Parce qu'il y avait des agents déjà avant même la création des mairies. Et il va falloir s'occuper de ces gens en matière de salaire d'abord, avant de voir ceux qui ont été recrutés. Beaucoup ont été laissés sur le carreau, ils ont été trompés, tout ça là. C'est là aussi l'enseignement sexuel intervient, dans ce sens que quand vous arrivez et que vous êtes là et que vous pensez toujours trouver un emploi, à un moment donné, par faiblesse, vous risquez de tomber dans le piège là. Parce qu'on vous promet que bon, tu seras recruté. Et tu es prêt à tout. Des fois, il faut accuser les patrons, mais aussi la victime elle-même, qui est consentante dans cette histoire de
harcèlement. Parfois, c'est elle qui commence.
Elle veut donner même pour...
Parfois, elle est prête à donner. L'autre a donné un exemple qui est patent, mais qui est avilissant. Dans ce sens que, vous avez quatre patrons qui sont en haut. Bon, elle t'envoie, tu risques d'être mangé par tous. Et au final, tu ne retrouves même pas l'emploi.
Parce qu'ils ne voudront pas que tu restes ici pour regarder notre visage.
C'est leur stratégie. À la fin.
Et donc, vous savez, nous sommes en société. Et ces gens de choses peuvent arriver, sauf si la personne n'est pas mariée. Mais il faut passer par les voies normales. Il faut draguer la fille normalement. Tu n'es pas marié, je veux te marier. D'accord. Mais aussi avoir ces deux personnes-là dans une même entreprise, ça porte atteinte à l'entreprise.
D'accord. Oui.
Donc, ce que le ministre a fait, pour une fois, je peux lui envoyer un hibiscus, c'est ça, non? Une petite fleur. Parce que là, il a frappé fort. Et il doit suivre ce dossier de très près. Dissuader cette petite vautour charognard qui tourne autour du pot de lait là. Et pour finir, je ne sais pas si c'est moi qui me trompe. L'arrêté même, quand vous le lisez, il ne faut pas qu'on prête aussi le franc aux homosexuels. Suivez mon regard. Allez relire l'arrêté. Peut-être c'est moi qui me trompe. Bon, bref.
D'accord. Alors, Jean Legrand, c'est vrai que le paradoxe, c'est que, alors, c'est les chefs d'entreprise, les responsables, hein, les hauts responsables, les directeurs, qui sont souvent à la base même d'ailleurs de ces actes. Au même moment, ce sont eux alors à qui on demande même d'ailleurs de sensibiliser dans le service.
Oui, c'est de leur devoir, parce qu'ils sont à la tête quand il y a un décret, c'est à eux de vulgariser. Mais pour que leurs administrés soient informés d'abord, parce que s'ils ne le font pas, c'est une faute grave. Mais c'est en même temps pour dire que eux-mêmes, ils sont suivis, ils sont surveillés. Moi, je dis que on attendait cette décision depuis longtemps. Mais on l'attendait depuis très longtemps. Et vous imaginez, même la dernière fois, j'étais sur une plateforme où quelqu'un a dit, mais qu'est-ce que ce n'est pas parce que une petite soeur d'un ministre quelque part a été victime que rapidement on s'est précipité pour prendre cette décision? Mais ce problème existait depuis, mais les gens n'en parlaient pas. Pourquoi est-ce que c'est maintenant qu'on le fait? Moi, j'ai dit, il vaut mieux tard que jamais. Parce que véritablement, c'est un problème dans nos administrations. Et surtout avec la rareté de l'emploi. Ma gloire a tantôt parlé des stagiaires. Je vous dis, trouver un stage au Togo est plus compliqué même que trouver un emploi.
Comment ça?
Trouver un stage, quand vous finissez votre mémoire, mais approchez-vous des étudiantes.
Actuellement, c'est compliqué.
C'est la croix et la bannière. Avant même que vous ne trouviez ça pour pouvoir produire votre mémoire, vous ne savez pas tout ce par quoi vous allez passer, quoi et qui vont passer sur vous d'abord. Mais c'est une situation un peu terrible. Moi, je voudrais véritablement aussi qu'on aille à ce niveau-là, au niveau même des recrutements, qu'on ne s'arrête pas juste au niveau de ceux qui travaillent et tout ça. Et j'attends véritablement de voir quand le décret va commencer, l'application va commencer, les premiers qu'on va prendre. Les premiers, là, comment est-ce que ça va être géré, là? Voilà. C'est ce que je veux véritablement
d'accord.
Voir.
Magloire?
Parce que y a une chose qu'on prend les décrets, mais l'application.
Effectivement.
Parfois, c'est compliqué.
J'en parlais.
On va vous dire, non, les preuves, question, vous n'avez pas suffisamment de preuves, machin, et la personne est encore sur le carreau.
D'accord.
Est obligée d'être là.
D'accord. Oui, Magloire?
Alors, vous savez, c'est très intéressant tout ce que nous disons, mais en même temps, on est sérieux. On en rit, hein, on donne l'impression de rire de ce qu'on dit, mais en vrai, c'est un phénomène sociétal qui ronge à petit feu notre société. Et si on ne prend pas garde, personne ne sait de quoi demain est fait. Tantôt, Jean disait que est-ce que peut-être que ce n'est pas une petite sœur à une autorité qui serait victime, qui aurait poussé véritablement à se précipiter sur ce décret, mais peu importe. Le plus important, c'est que mieux vaut tard que jamais.
Voilà.
Vous savez, il y a juste 2 ou 3 ans, je me rappelle qu'autour de ce plateau, un jeudi, SAS avait reçu une invitée, une personnalité qui est directeur d'une structure publique. Il était assis ici. Il avait fait une confidence. Il disait que les sanitaires de sa boîte étaient bouchés. Mais il s'étonnait en fait parce qu'on avait vidangé tout ça, il n'y avait pas. Il n'y avait pas longtemps.
Oui.
Voilà.
C'est bon.
Mais le vidangeur, quand il est arrivé pour faire son opération, mais Dieu seul sait le confident qui lui a fait. Bon, les capsules de préservatifs, tout ça.
Oui.
Mais c'est pour vous dire que le phénomène, il est réel. Donc c'est pour ça que nous disons que le ministre Bawara doit avoir la main ferme. Mais alors, il y a une autre nuance aussi qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est dans ce méli-mélo-là qu'il va y avoir des coups bas. Dans les administrations publiques aussi, les gens se créent des problèmes à leur prochain inutilement.
Voilà.
Oui, oui.
C'est pour ça qu'il faut être très vigilant dans l'application de ce décret. Une kidam ou un kidam peut sortir du néant pour critiquer ou accuser quelqu'un
comme on le fait aux États-Unis,
de l'avoir harcelé. Ça aussi, ça peut venir très rapidement et ça va être l'œuvre même des ennemis cachés qui ne voulaient pas l'évolution d'une tête dans la boîte. Donc c'est pour ça, c'est bon le combat, il est bon, mais il faut être aussi minutieux, très méticuleux dans l'application de ce décret.
Voilà, il nous reste pratiquement 15 minutes. Je veux quand même qu'on parle politique dans cette émission.
Je trouve qu'il faut aller très très vite dans l'application de ce décret.
D'accord.
C'est très important. Et puis, le ministère de la Fonction doit être aidé par tout le monde. Hein, parce que je ne sais pas s'il y a un numéro vert pour ça.
Il devrait.
Parce que ce n'est pas, le ministre ne va pas aller dans les services pour voir. On fait quoi? C'est que les gens vont rapporter les faits.
D'accord.
Et comme Magro le dit, je pense que ceux qui vont gérer ce dossier-là seront démêlés le vrai du faux.
Il faut des enquêteurs dans chaque boîte.
Oui.
D'accord. Il faut une antenne dans
chaque boîte. Pascal, voilà. Tu t'inquiétais, comme les responsables, c'est eux qui sont le plus souvent indexés. Pourquoi c'est eux qu'on doit envoyer vers pour la sensibilisation? C'est normal. C'est aux voleurs qu'on confie les choses. C'est comme ça. C'est à eux d'aller. Là, ils connaissent les règles du jeu et on verra.
D'accord. Merci beaucoup. Alors, parlons politique. Nous savons quand même que ce qui domine l'actualité en matière politique aujourd'hui, c'est les élections législatives et régionales qui nous attendent déjà le 13 avril prochain. Nous connaissons bien la date. Et ce que nous connaissons aussi, c'est la répartition des sièges à l'Assemblée nationale. Et cette répartition qui fait couler d'encre et de salive depuis longtemps, surtout dans la classe de l'opposition. Il y a beaucoup de journaux qui sont revenus sur le sujet ce matin. Il y a d'abord Écho du Pays qui titre à sa une « Élection au Togo, découpage électoral et répartition des sièges, l'opposition s'agite ». Alors, le journal Le Dialogue qui titre également « Élection du 13 avril prochain, la DMP dans une exigence irréalisable ». Alors, autre journal, c'est Togo Matin. Le journal Togo Matin qui titre aussi « Le gouvernement togolais travaille à fond pour un processus électoral consensuel et une représentation fidèle et équitable ». On prend un autre journal, c'est Ouara les vainqueurs. Michel, vous écrivez à la une de votre journal « Découpage électoral, les éternels insatisfaits se signalent encore ». Alors, Michel, quand on prend ces critiques ou dénonciations du découpage électoral aujourd'hui, est-ce que quelque part l'opposition aussi n'a pas ses raisons?
Je ne sais pas si elle a ses raisons ou pas. Mais ce que je constate, c'est qu'elle a participé, elle a travaillé pour qu'on ait le résultat là aujourd'hui. Rappelez-vous, le 13 décembre, ils étaient dans le cadre CPC. Ils ont travaillé, ils ont parlé
de concertation
des élections législatives, ils ont parlé du fichier électoral, l'audit du fichier électoral. Ils ont aussi parlé, c'est pas comme Adjourovi qui était le maître de séance, si j'ai bonne mémoire, à l'époque. Il a dit qu'ils ont aussi parlé du découpage électoral. Ça veut dire que les acteurs politiques, en tout cas la plupart, étaient là-bas. C'est eux qui ont décidé. Ce n'est pas le gouvernement qui s'est enfermé dans un bureau pour dire, OK, à partir d'aujourd'hui, voilà ce qu'on fait. Mais c'est eux, ils ont participé d'une manière ou d'une autre au résultat actuel. Et donc, pour parler de ce découpage, les bases, ils sont partis sur des bases. Les bases, disons, critères démographiques, critères géographiques,
et les critères spécifiques.
Oui. Voilà.
Et qu'est-ce qu'on fait dans ces critères spécifiques?
La solidarité entre les territoires. La solidarité entre... Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les coins du pays doivent être représentés à l'Assemblée nationale. Vous comprenez? Quand vous prenez la maritime, ça fait 31.
Oui.
Le plateau, 31. C'est les deux régions les plus peuplées de notre pays. Vous prenez la Kara, modérément peuplée, ça fait 19. Et 16 pour la savane et 16 pour la centrale, parce que c'est des régions moins peuplé. Qui dit mieux? Maintenant, quand vous prenez la région maritime, 31, ça fait pratiquement le double de la centrale ou de la savane. Vous voyez un peu juste parce que le gouvernement, les acteurs politiques dans leur discussion ont voulu voir les régions être représentées d'une manière satisfaisante. Le gouvernement, dans ce qui a été dit, ou les discussions qui ont eu lieu le 13 décembre, c'est sur cette base qu'aujourd'hui on a ce découpé-là. Et malheureusement, ceux qui ont participé, c'est eux qui crient encore que non, ça n'a pas été bien fait. Ça veut dire que, si je vois bien, c'est que certains voudraient que, bon, chaque sous-quartier de Lomé, par exemple, ait un député.
Comment ça?
Là, ils pensent que non, puisque là, on est sur les bases des considérations partisanes. Parce que, rappelez-vous, ils sont sur un terrain politique. Alors que sur les bases objectives, quand vous regardez le découpage actuel, vous trouvez que le gouvernement ne peut pas faire mieux que ça.
D'accord.
Voilà. Alors, c'est pour ça que nous avons montré que, parce que ce débat-là, on a toujours fait ce débat-là depuis qu'il fallait quand même revoir. Oui. Et cette fois-ci, le gouvernement a accepté ce qui toujours trouve à redire. Continue.
D'accord. C'est pourquoi nous disons que
les éternels insatisfaits.
Moi, je ne partage pas, même pas un seul point de ce que Michel a développé. D'abord, pour la première raison, le CPC est créé par qui? Le CPC n'est pas créé par un accord politique au Togo comme au temps de l'accord politique global. De la PG. Le CPC, c'est une créature du pouvoir qui est là actuellement, Lomé, dirigé par Fong Yassingbé. Et quels sont ceux qui remplissent le CPC? Il a parlé d'Adjouvi. Qui connaissait Adjouvi à Lomé ici? Adjouvi était en Europe. Il était en Europe. Il connaissait Adjouvi. Et c'est ce monsieur qui dirige maintenant le CPC.
Mais
c'est On a fait inviter les gens pour boire du lait. Les gens ont refusé qu'ils ne vont pas boire du lait. Est-ce que tu me comprends? Pour vous dire que ceux qui sont là-bas, là, et c'est pire que... C'est une frange de l'opposition togolaise qui a proposé ce découpage-là. Parlant du découpage, c'est ahurissant que vous ayez 2 088 000 à Lomé. Pratiquement, les 2 cinquièmes ou le 3 cinquièmes de l'électorat du tout le Togo. Qui a combien de députés? 14. Au même moment, on a 1 000 000 quelque chose dans le Cloton. C'est la région. Oui, c'est la région là. Qui a combien? Maritime. Qui a combien? 31. La moitié de ce que Lomé a. Alors que Lomé a plus de 2 millions. Quelle est cette discrimination là? C'est sur quelle base on a fait cette discrimination? Dans tous les pays au monde, que Michel me dise que l'on se base sur la géographie pour donner tel territoire ou élire un député. Même en Californie, c'est sur la base démographique. C'est par rapport au nombre. Je représente un nombre de personnes dans telle région. Le cas de Blita, c'est ce cas-là qui est choquant. Blita a 4 députés. Si vous vérifiez le quotient, tout ce qu'on a pris, ça veut dire que 40 000 personnes votent un député à Blita. Alors qu'il y a 180 000, 200 000 qui votent dans le sud ici, pour un seul député. Où est-ce qu'on a écrit ça? Et je vais finir.
Oui, rapidement.
Qui a fait ce découpage-là? Celui qui est arbitre et qui sera aussi joueur dans le match, c'est lui qui a fait ce découpage-là. Et en plus, il donne des cautions. Je viens aussi à la question du caution.
Justement, on va en parler.
C'est le gouvernement qui parle de la caution. Il n'y a plus le temps.
Rapidement.
On dit 500 000, rapidement. C'était à 100 000. 500 000. Donc le vote est sensitif. Le vote est fait pour le riche. Et le fort dans ce pays.
Non,
pauvre ne vote plus.
Non.
100 000 francs, 500 000 francs. Pour un député éligible. Éligible, justement, c'est ça. Qui a le droit de donner la caution?
Ambroise, oui.
Qui a ce droit-là? Ce n'est pas le gouvernement. Il doit avoir un code électoral qui précise tout ça, bien avant.
Ah, d'accord. Merci beaucoup, Ambrose.
C'est des dispositions qui énervent les gens.
Oui, d'accord. Alors, Jean, est-ce que vous êtes surpris vraiment par cette répartition?
Ils vont réagir tout à l'heure, tu vas les écouter.
Surpris, oui et non, parce que, vous savez, comme Michel l'a tantôt dit, le 13 décembre, les acteurs politiques se sont réunis. Moi, bon, nous tous, nous avons eu écho. C'est après cette réunion qu'on nous a dit que le nombre de députés va monter à 113. Mm. Parce que dans la salle, certains partis avaient proposé qu'on aille sur une base communale.
Tout à fait.
Afin que chaque 117. Commune ait un député. Mm. Moi, je dis ceci. Finalement, on se rend compte que les 113 n'ont pas réglé le problème, en fait. Parce qu'à la base, moi, je me dis que quand les gens sont partis pour discuter, c'est vrai que le problème des découpages électoraux, il y avait ce problème. Mais les gens ont préféré aller parler de l'augmentation des députés. Et dès que cela a été acté, moi, je n'ai vu fondamentalement aucun parti s'opposer. On se dit qu'ils étaient du moins d'accord. Maintenant, au niveau du découpage, moi, je me disais peut-être qu'on aurait une réunion du CPC après, où les gens allaient s'asseoir et ensemble décider. Parce que je me rappelle que bien avant, on avait parlé d'un consensus et d'une certaine cohésion. Et il avait été annoncé que certains partis qui n'étaient pas au CPC allaient rejoindre la barque ensuite pour qu'on essaie d'aplatir, d'arrondir les angles et d'aplanir les sentiers et aller. Mais ce que nous avons constaté, comme nous l'avons publié dans le journal, c'est que le découpage électoral est encore une question qui divise. Pourquoi la question divise? Parce que certains partis politiques de l'opposition trouvent qu'à un niveau, certains sont élus avec deux fois, trois fois plus de population que d'autres.
Les députés n'ont pas le même poids.
N'ont pas le même poids. Le souci actuellement, c'est quoi? C'est que les critères même qui font les découpages n'ont pas été véritablement communiqués. C'est-à-dire, nous tous, nous supputons. C'est vrai que la première base, c'est la base démographique. Mais moi, je dis également qu'il y a le critère de superficie qui a été pris en compte. Ouais. Moi, je suis d'accord que un député, si le critère de superficie entre en jeu, un député élu peut-être dans une certaine circonscription n'est pas le même nombre de voix qu'un autre. Mais quand le gap est trop, c'est là où véritablement, à un moment donné, les gens se posent des questions, se disent, pourquoi, sur quelle base, quelle est la véritable clé qui a servi à ce qu'on fasse cette répartition? Et le gouvernement gagnerait à ce qu'on communique véritablement sur la clé de répartition pour que chaque parti comprenne que, voici ça. Si c'est sur cette base, au moins nous tous nous sommes situés. Mais tant que la situation est comme telle, je crois que les gens ne vont pas s'entendre. Et moi, je dis un truc
rapidement.
Le train des élections est déjà lancé. Aujourd'hui, l'opposition n'a plus, c'est-à-dire les récriminations et tout ça, c'est déjà passé, c'est déjà acté.
D'accord.
Je ne vois pas un gouvernement qui va reculer dans l'arrière. Maintenant, quitte à l'opposition de batailler dur sur le terrain. Allez dans les hameaux, parce que vous voulez être représenté au plan national. Battez de campagne, faites-vous élire, et vous allez essayer d'améliorer ce que vous
jugez
qui n'est pas bon.
Legrand.
Parce que le découpage est fait suivant les politiques.
Merci beaucoup, Jean Legrand.
Alors,
Magula, s'il te plaît. Alors, finalement, est-ce que nous ne sommes pas sur un terrain politique et que les dénonciations de ces répartitions des sièges et ces autres sont de bonne guerre?
Bien entendu. Vous savez, moi, par nature, lorsqu'on parle des hommes politiques, moi, je ne fais confiance à aucune virgule même de leurs phrases. Parce qu'en réalité, c'est des gens qui sont là pour défendre que des intérêts de leur chapelle. C'est ça la réalité. Voyez-vous, on parle du découpage. D'un côté, on tente de nous expliquer que non, qu'il y a une clé de répartition. Mais en vrai, il y a de réels besoins de se questionner sur cette répartition, ce découpage qu'on a. Mais en vrai, on peut se questionner. Ça, c'est une chose. Mais la réalité aussi, c'est que, comme tu l'as dit, nous sommes sur un terrain politique où l'évidence est que chacun se bat pour capter le pouvoir et l'exercer. Voyez-vous? Et donc, vous allez voir même que c'est dans cette logique que le pouvoir en place est là. C'est vrai qu'on parle d'élection. C'est un challenge. Tout le monde ira pour gagner des places à l'Assemblée nationale et tout. Mais je vous assure, dans leur tête, au niveau du pouvoir de Lomé, mais ils ne céderont aucune place. C'est dans leur chromosome. C'est-à-dire qu'en tant que tout bon politicien, c'est comme ça. Donc moi, je dis, tout ce qu'il y a comme débat et tout, c'est de bonnes guerres. Mais la réalité, c'est que l'opposition aussi doit se mettre en tête que C'est sur un terrain politique et donc on organise les élections pour rafler le maximum de ses possibles. Mais en même temps, je me dis, mais la réalité aussi, c'est que autant j'en voulais à ceux qui ne s'étaient pas associés, n'est-ce pas, au CPC, parce que j'estime qu'on est entre Togolais, tout ce qu'il y a comme problème, c'est à nous de discuter entre nous et trouver les solutions. Mais au même moment, j'en veux à ceux qui avaient fait partie de ce CPC. Qui a abouti à ça, même si ce n'est pas un accord, le CPC n'est pas le fruit d'un accord politique global, mais c'est quand même un CPC qui a réuni une frange de l'opposition.
Tout à fait.
Et le camp, on prend. Le
on avait exclu personne. Hein.
Voilà.
Les gens n'ont pas voulu.
Sanctionneur, Conseil des mines, a dit que le découpage électoral, tout ça, sera la résultante des discussions qui ont eu lieu en amont au niveau du CPC. Et donc, logiquement, moi, je suis un peu mal à l'aise de voir certains partis qui avaient fait partie du CPC, du CPC qui s'en plaignent. Attends, ils doivent s'attendre que c'est un challenge. Les discussions, moi, je dis, mais on n'a jamais vu un CPC où les gens se sont séparés à queue de poisson. Ça voudrait dire qu'ils sont là, entre coquins, copains. Mais en réalité, c'est ce qu'il fallait. Un cas de discussion politique, mais vous défendez vos intérêts. Si vous n'êtes pas d'accord, vous claquez la porte. C'est un peu comme l'Assemblée nationale.
D'accord.
C'est pour ça que notre Assemblée nationale qui est arrivée à terme, on va et puis on lève les doigts. Je dis
d'accord,
non,
merci
il
beaucoup.
Il faut des courants politiques. Voilà. Vous défendez, vous n'êtes pas content, vous boudez, on suspend.
Je pense que la prochaine législature va répondre à vos aspirations. Alors, merci. Je pense qu'on va en arrêter là parce que il est déjà midi. Il est midi, hein, passé de 2 minutes. Nous allons écouter aussi nos amis auditeurs, auditrices qui nous ont écoutés pendant pratiquement 1 heure de temps. Nous allons les écouter aussi mais bien avant, nous allons faire un tour chez nos annonceurs.
93.5 Canal FM.
Nous sommes de retour dans cette émission Club de la presse de ce jeudi et vous comprenez sans doute que nous nous ouvrons maintenant à vous. Vous pouvez nous appeler au 22 21 33 74 91 36 Allô. 63 75. Daïssi, bonjour.
Bonjour.
Bonjour, comment vous allez?
Bonjour.
D'accord.
Ça va, parce qu'on ne dort pas bien avec cette coupure intempestive là. On ne dort pas bien, quoi. Et comment on pourra bien travailler pour les pays se réveiller et en forme le matin pour aller travailler? Et puis voilà, c'est ça les Africains. Et les dirigeants africains ne sont pas sérieux. C'est à quoi on assiste partout en Afrique, au Sénégal, au Togo, tout ça là. Au lieu de respecter la constitution qu'on s'est donnée, comme en France, pour qu'on soit bien, pour qu'on ne nous coupe pas le courant comme ça, l'eau. Et j'ai des parents en Foreva, ils n'ont pas eu de l'eau durant un mois et demi, et même maintenant. Hein. Et c'est pas normal. Des tortures pour rien, des souffrances que les dirigeants nous infligent. Pour rien, quoi. Hein. Ils n'ont qu'à suivre la constitution, ils refusent d'alterner, de faire la démocratie, sinon il ne se passerait pas tous ces trucs-là. Autrement, je veux cibler la CET, la fameuse. La CET brasse des milliards par jour, comme Togo fait dans le temps, tout le reste, quoi. Des milliards par jour. Et comment on peut en arriver là, avec ces coupures-là, qui nous rendent malades, parce que nos aliments pourrissent dans nos frigos. Mais on est obligé de les manger parce qu'on n'a pas d'argent. On n'a pas d'argent pour en racheter d'autres. On est malade. Hein? On a la diarrhée, on a tout ce qu'on veut. Et puis, comment se fait-il? Et puis, la CET nous envoie des factures tous les 15 jours. Si vous ne le savez pas, moi je vous le dis. Tous les 15 jours, donc par mois, on paye la CET 2 fois, 2 factures. Quand on t'envoie une facture, par exemple, tu payes, tu restes 5 000. Tu te rapproches pour voir ce que c'est. Tu retrouves encore 48 000, par exemple, dans le truc. Et on te dit que c'est la facture à venir. Ça veut dire quoi? Ça vole. Ça vole, ça escroque de part en part.
D'accord.
On en a marre. Maintenant, moi, j'exhorte les Togolais à s'organiser en partie civile. pour porter plainte contre les dirigeants qui nous font tant souffrir.
D'accord.
Et puis les autres, les répétistes là, les miliciens, tout ça là, les djihadistes, à voter contre eux.
Merci beaucoup Daïssi, 22 21 33 114 91 36 63 75. C'est sur ces deux numéros que vous pouvez nous appeler. Allô.
Allô, bonjour.
Bonjour, comment vous allez?
Très bien.
D'accord, le nom
la
c'est...
La grâce de Dieu.
Oui, votre
ça
nom...
Ça ne va pas pour moi, ça ne va pas pour les Togolais.
D'accord, votre nom c'est...
C'est Bozambo.
Oui, Bozambo, allez-y.
Ok. Ma première préoccupation, nous sommes tous des Togolais. S'il y avait des élections, il faut que tout le monde sache, voit son cœur dans les campagnes, dans les tours. Donc, nous sommes tous des Togolais, allez-y voter. Allez-y voter. Et on réveille, on augmente le prix, comme si nous allons prendre une voiture, bien un avion pour aller se voter. Nous préparons plus pour 100 000. Quand tout le monde veut aller aux élections, le gouvernement est en train de faire tout possible pour bloquer les opposants de ne pas aller. Donc, ça veut dire comme le Togo appartient à eux. On nous a dit dans ce pays qu'il reste 6 mois deux élections dans un pays, on ne doit pas faire aucun, on ne doit pas toucher la constitution. Voilà ce qui se passe au Sénégal. Il faut que les dirigeants togolais veulent que les Togolais sortent et tirent les barrières sur nous avant de faire des comptes. Celui qui sort et tu tues des balles aujourd'hui, demain tu vas rencontrer et demain tu seras. Parce que le président de la République n'est pas donné ordre d'aller tirer quelqu'un. C'est lui qui a donné l'ordre, dès que vous allez mettre à la justice, devant la justice,
oui.
vous allez justifier.
Ok, merci beaucoup Bozambo. Merci à vous. Le message est passé. 22-21-33-114-91-36-63-75. Allô? Allô, bonjour. Allô? Allô, auditeur. 22-21-33-114-91-36-63-75. Allô? 22-21-33-114-91-36-63-75. Allô?
Allô, bonjour,
oui. Monsieur le journaliste. Oui, bonjour, comment vous allez?
Ça va très bien. Ça ne va pas, hein, ça ne va pas.
Ah, mais vous avez dit déjà que ça va bien?
Oh non, je suis crampé.
D'accord, allez-y.
Je me nomme Ben de Thévier.
Ben de Thévier, Ben, allez-y. Ouais.
Je salue tout le plateau. Je félicite, j'ai jeté une fleur à... Ah, votre collègue, M. Abraham, vraiment, c'est un bon panafricain. C'est ça que nous disons que il est maintenant aujourd'hui, nous les peuples togolais qui vous écoutent là-bas, vraiment, c'est un bon serviteur de ce pays. Parce que, pourquoi? Il nous a en train de expliquer ce que les leaders qui est en train de nous expliquer. Donc, vraiment, je jette ce droit pour toujours pour les félicitations. Merci, monsieur le journaliste.
Merci beaucoup, Ben, depuis Thévier. 22-21-33-114, allô?
Allô, Thierry.
Oui, Thierry, bonjour.
Oui, allez-y. Quand il s'agit de la coupure de la TDE, de la CET, tous les journalistes sont unanimes. Mais quand il s'agit de la chose politique... Quand 10 personnes doivent voter pour un député à Lomé et qu'une seule personne doit voter pour un député à Kara, les gens se disputent. Des journalistes. Où est l'équité? Des gens qui doivent nous donner l'exemple. 10 et 1, il y a une grande différence. Vraiment, c'est pathétique. Et vous voulez éduquer la jeunesse. Ambroise. Du courage. Merci.
Thierry, merci à toi, à chacun quand même son analyse, hein, au club de la presse ici. Chacun a vraiment le droit alors de faire son analyse. Allô? Allô?
Oui, allô?
Oui, bonjour.
Bonjour.
Oui, le nom c'est?
Nyamavo.
Nyamavo, allez-y.
Oui, je salue le président de l'Assemblée. Après, on rentre dans le
territoire. Nyamavo. On a un peu du mal à vous écouter. Diminuez le volume alors du poste qui est à côté de vous.
Oui. C'est bon?
Non, ce n'est toujours pas bon. Alors, vous allez vous déplacer un tout petit peu.
Oui, je disais.
Oui. Décidément, nous ne coûtons pas alors Niamavon. Niamavon, nous sommes désolés, mais nous allons vous couper. Allô? 22 21 33 114. Allô?
Allô?
Oui, bonjour. Allô, bonjour.
Allô?
Oui, bonjour, nous vous écoutons. Allô? 22 21 33 114 91 36 63 75. Allô?
Allô, bonjour.
Oui, bonjour, comment vous allez?
Oui, ça va parce que nous devons dire merci à Dieu parce qu'il nous a donné la santé.
C'est l'essentiel. Le nom,
mais
c'est...
les dirigeants togolais nous rendent malades chaque jour.
Oui, s'il vous plaît, votre nom c'est...
Ali.
Ali, Ali, allez-y.
Ce qui est gênant, c'est que la bande de médiocres qui nous dirige est venue nous clochardiser et que nous disons que nous sommes intelligents. Eux, ils ne sont que des représentants. Eux n'ont pas droit titre foncier sur Togo, non. Ça, je le dis chaque jour, c'est le président Foyon Yassimbe qui est le premier à être jugé un jour pendant son mandat. Donc, il n'a qu'à dire à ses collaborateurs d'être juste suivant la Constitution. Et lui-même, ce qu'il a dit dans sa campagne, il n'a qu'à exécuter ça pour mettre à l'aise les Togolais. Au contraire, c'est une parjure qu'il est en train de faire. Et une autre, autre trahison, je le rappelle ça au procureur de la République. Ce qui est la prestation de serment engage le procureur également à surveiller le président. Voilà qu'il fait le contraire. Il n'a jamais dit qu'il va faire souffrir les Togolais. Maintenant.
Oui, concrètement, Ali.
Oui,
concrètement, qu'est-ce que vous voulez dire?
Dire au président de respecter la constitution togolaise.
D'accord.
Ce qu'il est en train de faire est pire que ce que ça le fait.
Oui, qu'est-ce
parce
qu'il
que,
fait?
Parce que le code de électoral n'a jamais prévu 500 000 comme cautionnement.
Voilà.
Mais de quel droit un gouvernement va se lever pour pouvoir changer un code électoral qui est une partie de la constitution?
Vous estimez que c'est exagéré?
C'est pas, on ne parle pas de montant. L'acte est injuste et anticonstitutionnel.
D'accord.
Ceux qui cautionnent ça sont en train de rejoindre la bande de médiocres. C'est d'accord. Ça que nous évitons.
D'accord, merci beaucoup Ali. Le message est passé. 22 21 33 114. Allô?
Oui, allô, oui.
Bonjour.
Bonjour, monsieur.
Oui, bonjour, comment vous allez?
Je vais bien.
Le nom c'est?
Combattez d'Avenou.
Combattez depuis Avenou. Combattez, oui. Allez-y.
Je salue le plateau.
D'accord.
Toujours sur le plan politique. Sur le plan politique concernant les législatives prochaines. Un de vos invités disait que voilà, la population de la région de la Kara dépasse la région, celle plutôt de Savane et celle de la centrale. Je voudrais apporter un rectificatif.
Mais monsieur Combattez,
la population des savanes dépasse celle de la Kara et des savanes. Mais malheureusement, le découpage dit autre chose. Ça passe. Concernant toujours les législatives, les candidats, nous constatons que d'autres prennent les postes de députés comme si c'était, je ne sais pas, un emploi. Quand je prends l'exemple de M. Dupougoune, il a fait longtemps. Pourquoi ne pas laisser la place aux autres? Ils sont nombreux, il n'est pas le seul. Merci, bon appétit.
Merci beaucoup à vous aussi et bon appétit. Nous allons recevoir le dernier auditeur. Allô?
Oui, bonjour les invités.
Bonjour, comment vous allez?
Ça va bien, c'est Karim le taximan.
Ah, Karim, allez-y.
Moi, tout ce que j'ai dit aujourd'hui, il faut que la population togolaise doit prier beaucoup pour Foyon Yassimbe. Sinon, les gens qui sont autour de lui, là, ça ne va pas. Parce que vous voulez que le président, le gars, se bat partout, il voyage, il ramène tout, il peut ramener des sous, et ça ne va pas. Le président se bat, mais l'entourage de force, ça ne va pas. Les ministres ne font pas leur travail. Et qu'est-ce que vous voulez qu'on fait dans ce pays? On a un président qui se bat pour le pays et d'autres sont là. Vous ne voulez pas laisser le gars évoluer. Pourquoi? Je demande pardon, Foyon Yassimbe, de ramener le ministre Kokorogo à CT, ça serait mieux. Ministre Kokorogo, là, il n'a qu'à revenir à la CT. Il est à l'université, il a prouvé. Ministre de l'enseignement, il a prouvé. On n'a qu'à le ramener à la CT. Sinon, les d'autres en fait de gâter la politique du Fort Gnassingbé. Merci, bonne journée.
Merci beaucoup, Karim. Votre doléance aussi a été écoutée. Je pense que vous êtes le dernier auditeur pour le compte de cette émission de ce jeudi. Et nous revenons en plateau ici, mes chers confrères. Nous avons écouté les uns et les autres se prononcer sur les sujets débattus ici au Club de la Presse. Michel, quelle est votre réaction par rapport à tout ce que les uns et les autres ont dit?
Non, je pense que les gens donnent leur avis, ils ont fait des commentaires sur ce que nous avons débattu ici. C'est normal, ils sont libres, mais la réalité est là. Vous savez, lorsque vous appartenez à une chapelle politique, vous avez une manière de voir. Nous, on est journalistes, nous commentons les faits. Nous commentons ce qui se passe, ce que les acteurs politiques comme actes, nous commentons cela.
Et nous analysons aussi.
Nous analysons. Mais ceux qui appellent, c'est des partisans, c'est des militants des partis politiques. C'est normal, ils ont leur appréhension, ils ont leur manière de voir. C'est différent de nous, les journalistes. C'est ce qu'ils doivent comprendre. Nous, on n'est pas là pour. On analyse les faits. Vous comprenez? Mais je suis vraiment peiné que quelqu'un même dise. Insulte d'autres qui sont des médiocres, c'est eux les intelligents. Je pense que c'est si la personne vraiment a une hauteur d'esprit, ne peut pas descendre très bas, dire insulter les autres qui sont les médiocres, c'est eux les intelligents. C'est un peu. Je pense que c'est la personne est tombée trop bas pour raisonner de cette façon.
Tout à fait. Alors, Mangola?
Ben, qu'est-ce qu'il faut dire? C'est un peu chaud, mais c'est aussi ça, nos réalités de journalistes. Tantôt, on discutait de l'actualité beaucoup plus sociale. On était unanime.
Oui.
On tombe sur un sujet politique et puis patatras, ça va dans tous les sens. C'est aussi ça, la délicatesse du métier de journaliste. Mais j'avoue que nous, on n'a pas la science infuse. On analyse les faits par rapport aux éléments d'appréciation qu'on a. Mais le plus important, je crois, c'est que l'objectif de tout le monde, c'est que le Togo aille mieux. C'est tout ce que nous cherchons. Et c'est pourquoi moi, je ne me sens pas si emporté par l'acte que pose un homme politique. Eux, ils sont dans leur bureau, nous écoutent, ils sont fiers. Voilà, ils sont en train de se... Alors, quand ils se retrouvent pour parler de leurs intérêts et tout, ils ne nous invitent pas. On n'est pas au courant. Donc, moi, j'analyse les choses avec les éléments d'appréciation que j'ai. On peut se tromper parfois, mais le plus important, qu'ils nous facilitent la taille. Ils sont des politiques qu'ils ont... En fait, la réalité aussi, c'est que ce soit l'Assemblée nationale ou le CPC, de telle façon, ils représentent le peuple togolais, que certains y sont ou pas. On peut, tous les 8 millions de Togolais ne peuvent pas se retrouver ni à l'Assemblée nationale, ni dans un cadre de discussion. Mais ceux qui ont cette chance-là de porter la voix des Togolais, qu'ils fassent les choses de telle sorte que tout le monde se retrouve dedans.
D'accord, merci beaucoup Magloa. Jean Le Grand.
Oui, je vais également rejoindre les propos de Magloa.
Rapidement,
pour dire que les politiques se sont entendus. Quand ils sont entendus pour augmenter le nombre de députés, nous en avions parlé ici, mais entre eux, ils ont trouvé que c'était utile sans nous consulter. Et également pour le découpage, ils se sont entendus entre eux, même si aujourd'hui, certains disent n'avoir pas été satisfaits. Moi, je coupe la poire en deux. Je dis le découpage est déjà fait. Quoi qu'on dise, c'est vrai que sur certains points, il y a beaucoup de choses à redire. Mais ce qui est déjà fait, fait. Maintenant, aux acteurs politiques qui se sentent incompris, de travailler sur le terrain pour essayer de rétablir l'équilibre.
D'accord.
Dit. Et je termine par ceci. Au niveau de la T2A à Takpamé, on nous signale également que depuis plus d'une semaine, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau. Les gens prennent des motos, des voitures pour aller puiser l'eau très loin dans les bidons jaunes. Véritablement, que quelque chose soit fait pour solutionner ce problème.
D'accord, merci beaucoup. Alors, Ambroise ?
Oui, j'ai écouté les auditeurs. Je crois que beaucoup m'ont envoyé des messages. Je les remercie. Mais mon problème, c'est l'objectivité dans nos prises de position en tant que journaliste. Ce qui doit être fait dans la légalité et dans la légitimité. Et quand on parle de légalité, un pouvoir ne peut pas continuer pas truffer les gens, pas la tricherie pendant les élections et continuer pas bannir les règles qu'eux-mêmes se sont données pour que ces élections-là se déroulent normalement. Juste pour terminer, je donne l'exemple du code électoral et le protocole de la CEDEAO qui dit qu'on ne peut pas modifier les textes à 6 mois avant les élections. Ici, nous sommes juste à 2 mois des élections, ou à 1 mois et demi, et nos amis du pouvoir sont en train de modifier, alors que ce n'est même pas de leur rôle. D'accord. Vous voyez ça? Donc, nous défendons l'intérêt général, c'est-à-dire l'intérêt du peuple, pas l'intérêt d'un camp politique, opposition, tout ça là. Moi, ce n'est pas mon problème.
D'accord.
Donc, aujourd'hui, il faut que ça soit clair pour tout le monde qu'un pouvoir a beau faire ça, mais un jour arrivera, il ne sera plus là-bas.
D'accord. Alors, merci beaucoup, Ambrose. Merci, Michel. Maboula, merci à toi. Jean Legrand, merci beaucoup. Merci d'être passé dans cette émission. Je suis toujours très ravi d'animer cette émission avec vous parce que, alors, avec les réflexions et tout, ça apporte quelque chose. C'est le débat, c'est l'analyse que nous faisons ici au Club de la Presse. C'est très important. Michel Tomega, merci à toi pour la mise en onde alors de cette émission. Jérôme Akuta, merci à toi aussi pour la mise en ligne. Je vous rassure que nous allons nous retrouver demain à partir de 11h pour un nouveau numéro de Club de la Presse, mais ce serait une émission spéciale avec un invité spécial bien sûr, et donc nous allons nous retrouver demain à partir de 11h. Bon appétit chez vous.
.5 Canal FM.